Les mystères du Palais Royal, cinquième partie. Chapitre 37. Philippe. Philippe avait 25 ans. C'était un grand et beau jeune homme, beaucoup plus beau que son frère aîné. Ses cheveux noirs, bouclés naturellement, encadraient un visage allongé, un peu pâli par l'éveil et par les plaisirs. Les grands yeux de Philippe offraient une bizarre expression d'audacieuse effronterie et de hardi désir. Ses moustaches, brunes et soyeuses, se retroussaient cavalièrement en croc au-dessus de sa lèvre supérieure. Bref, il y avait dans le visage et dans la personne du jeune officier ce je ne sais quoi qui décèle le mauvais sujet et qui plaît tant à certaines femmes. Je devrais dire peut-être à presque toutes les femmes. Philippe venait d'obtenir un congé de semestre. Or, se trouvant la bourse vide, il se proposait de passer au château paternel la plus grande partie de ce congé. La perspective de cet isolement, disons-le, l'épouvantait fort. L'absolue nécessité seule avait pu le contraindre à accepter, pour un temps plus ou moins long, un genre de vie aussi monotone, aussi différent de celui dont il avait l'habitude. Aussitôt que ses yeux eurent rencontré Blanche, aussitôt qu'il eut appris que la jeune fille était sa cousine et la commensale du château, cette épouvante dont je viens de parler disparut comme par enchantement. Philippe était un séducteur de profession. Les faciles et nombreux succès qu'il avait obtenus dans chacune de ses garnisons ne lui permettaient de croire à aucune résistance inébranlable. Il se dit tout d'abord que ce serait pour lui un délicieux passe-temps de triompher de l'innocence et de la vertu de sa cousine. À coup sûr, c'était chose rare que de rencontrer sur son chemin un pareil miracle de beauté. Une semblable conquête offrait un dédommagement plus que suffisant pour quelques mois passés dans un vieux et triste château. Philippe était en train de se faire à lui-même tous ses beaux raisonnements lorsqu'il apprit que son frère et sa cousine s'aimaient et que leur mariage devait être célébré à l'expiration du deuil. Cette nouvelle, loin de détourner le jeune officier de ses premiers projets, fut au contraire un excitant pour lui. L'aventure, se dit-il, en sera plus piquante. Ce Philippe était un garçon sans cœur et sans entrailles, un méchant, un véritable démon sous une forme charmante. Il n'aimait point sa cousine et pensait bien ne l'aimer jamais. Seulement, il la désirait, et pour satisfaire ce désir, il était décidé à ne reculer devant rien au monde. Quelques semaines se passèrent. Philippe, en véritable roué qu'il était, ne manquait jamais, toutes les fois qu'une occasion favorable se présentait, de jouer la passion vis-à-vis de sa cousine. Et, pour être franche, je dois avouer qu'il la jouait avec un véritable talent. Mais cette fois, il avait affaire à une naïveté réelle, à une véritable candeur. Philippe avait beau se surpasser dans son rôle, Blanche ne le comprenait pas. Ses tirades ardentes, ses exclamations passionnées ne présentaient aucun sens à l'esprit de la jeune fille. Elle ne pouvait voir en Philippe autre chose que le frère d'Albéric, d'Albéric son fiancé, presque son mari. Aussi prenait-elle ses paroles d'amour pour des promesses de fraternelle et bonne amitié, exprimées en un langage bizarre. Et de son côté, elle promettait à Philippe une affection de sœur. Cette résistance, si peu attendue, étonna et irrita le jeune homme au plus haut point. Cette défaite sans espoir fit fermenter tous les impurs limons dont se composait son âme. Il se dit qu'il faudrait bien que Blanche lui appartînt, et que si ce n'était de gré, ce serait de force. En même temps, il commença à ressentir pour sa cousine non plus un désir passager, mais les premières atteintes d'une passion violente, effrénée, aveugle, une de ces passions comme en éprouvent les libertins qui s'étaient promis de n'aimer jamais. Blanche, sauvegardée par l'égide de son innocence immaculée et de son chaste amour pour Albéric, ne s'aperçut pas plus de la passion de Philippe qu'elle ne s'était aperçue de son caprice. Cependant, le jeune officier, pareil au tigre ou au jaguar, n'attendait qu'un moment propice pour se précipiter sur celle dont il voulait faire sa victime. Un jour, l'occasion longtemps attendue se présenta. Albéric et son père avaient quitté tous deux le château de la Baume en voiture et pour plusieurs heures. Philippe, que tout le monde croyait à la chasse pour la journée entière, avait assisté à leur départ, caché dans un bouquet d'arbres situé à une faible distance. Blanche était seule. Philippe revint sur ses pas aussitôt que le carrosse eut disparu dans l'éloignement. À peine rentré au château, il entendit les sons de la harpe de sa cousine qui remplissaient les airs d'une musique délicieuse. Le jeune homme se hâta d'échanger ses vêtements de chasse contre le plus élégant de ses costumes de ville. Puis, d'un pas qui voulait être assuré mais que l'émotion rendait incertain et irrégulier, il s'engagea dans le corridor sur lequel ouvrait la chambre de Blanche. À mesure qu'il approchait, les sons de la harpe arrivaient à lui, plus purs, plus harmonieux. C'était une musique faite par un ange et digne des anges. Enfin, il atteignit la porte. Pendant une seconde, il hésita. Mais son mauvais génie avait pris sur lui un trop grand empire pour que cette hésitation fût longue. Il frappa doucement à la porte. La musique s'interrompit aussitôt. « Qui est là ?» demanda une voix plus suave que les accords de l'instrument dont les cordes vibraient encore. « Moi, ma cousine, » répondit Philippe. « Entrez, mon cousin, » dit la jeune fille, non sans un certain étonnement, car c'était la première fois que l'un des deux frères venait frapper à la porte de sa chambre. Cependant, il lui sembla qu'en interdire l'entrée à Philippe serait un acte de pruderie ridicule et sans motif. Aussi, comme nous venons de l'entendre, elle lui répondit aussitôt. « Entrez !» Philippe pénétra dans la chambre virginale dont il referma la porte derrière lui. Son visage avait une expression étrange. Il était plus pâle encore que de coutume et marbré de larges taches rouges. Ses yeux brillaient. Un léger tremblement nerveux agitait ses lèvres. Enfin, quoiqu'il s'efforçât de paraître calme, son émotion était manifeste. Un seul regard jeté sur la figure de son cousin épouvanta Blanche. D'où venait cet instinctif effroi? Elle n'en savait rien, mais le fait est qu'elle l'éprouvait. Blanche quitta précipitamment le siège qu'elle occupait. Elle appela sur ses lèvres un sourire contraint et elle dit avec vivacité « À quoi dois-je votre visite gracieuse et inattendue, mon cousin ?» Malgré elle, Blanche appuya sur le mot « inattendu ».« Je voudrais causer avec vous, ma belle cousine, » répondit Philippe, « si toutefois vous daignez m'accorder la faveur de l'entretien que je réclame. » « Causer avec moi, mon cousin ?» répéta Blanche. « Je le désire plus que tout au monde. »« Eh bien, c'est facile, ce me semble. » « Quoi? Vous consentez? Et de grand cœur ?» Philippe fit un pas pour tomber à genoux devant Blanche, mais cette dernière ne lui en laissa pas le temps. « Le temps est fort beau, quoique un peu froid, » ajouta-t-elle aussitôt. « Descendons au jardin, nous y serons tout à notre aise pour causer. » « Pourquoi ne pas rester ici, ma cousine ?» demanda Philippe. « Quand vous avez frappé à la porte, mon cousin, j'allais sortir. Quoi ?» s'écria Philippe. « Vous alliez interrompre cet air merveilleux que vos doigts charmants apprenaient aux cordes de votre harpe ?» Surprise en flagrant délit d'innocent mensonge, Blanche rougit légèrement. Philippe poursuivit. « Enfin, ma cousine, » dit-il, « accordez-moi une grâce. »
« Une grâce ?»«
Oui. »
« Laquelle ?»«
Celle d'écouter ici, dans cette chambre, ce que j'ai à vous dire. »
« Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs, mon cousin ?
Pourquoi dans cette chambre plutôt qu'au jardin ?»«
Parce que c'est mon désir, mon vœu, parce qu'il le faut. »«
Il le faut ?» répéta Blanche avec étonnement.
« Oui, ma cousine, il le faut. »
Et Philippe appuya sur ces trois mots. Mais Blanche, malgré sa douceur, avait dans les veines le sang impétueux des filles de noble race. Elle releva fièrement la tête.
« Et si pourtant ce n'est pas ma volonté ?» dit-elle.
Pour la seconde fois, Philippe hésita. Mais pour la seconde fois aussi, le diable triompha dans son esprit.
« Il faudra que ce soit, ma cousine, » répondit-il, « quand bien même ce ne serait pas votre volonté, car c'est la mienne. »
Et se retournant, il poussa les verrous intérieurs de la porte. Chapitre 38 Péril. Blanche vit ce geste. Elle comprit qu'un péril la menaçait. Et quel péril ! Le plus terrible de tous, le péril inconnu. La jeune fille devint très pâle. Elle se sentit près de chanceler, et elle murmura d'une voix qu'elle cherchait à rendre ferme, mais qui en réalité était à peine distincte. « Puisque vous me contraignez, par la force, à rester ici, puisque vous m'obligez par la violence à vous écouter dans cette chambre, je cède. Me voici prête. Parlez, que voulez-vous » Philippe, que sa méchante action enivrait comme un vin frelaté, répondit audacieusement. « Voici longtemps déjà, ma cousine, que vous refusez de m'écouter. Ou, si vous m'écoutez, que vous ne voulez pas me comprendre. Il faut que vous m'accordiez aujourd'hui toute votre attention. Il le faut, car ce que j'ai à vous dire est chose sérieuse. Et c'est afin que rien ne vienne nous interrompre et nous distraire, que j'ai insisté pour obtenir de vous une audience dans votre chambre, et que j'ai pris la liberté de pousser le verrou. C'est un crime, sans doute. Eh, mon Dieu, je ne le nie pas. Désobéir à ces yeux si doux, à cette bouche si charmante, c'est un crime de lèse-beauté. Pis que cela, c'est une tyrannie. J'espère cependant vous prouver bientôt que mon crime est moins grand qu'il ne le paraît, et que je ne puis être le tyran de celle dont je suis l'esclave. » Blanche ne comprit point tout d'abord le sens alambiqué de ce galant Phébus. Philippe s'en aperçut et résolut d'être plus clair. Il reprit donc. Depuis le moment où je vous ai vue pour la première fois, ma cousine, vous avez produit sur moi une impression profonde, brûlante, ineffaçable. Le trait décoché par vos prunelles victorieuses est resté dans mon cœur. En un mot, je vous aime.
Vous m'aimez comme un frère, interrompit vivement Blanche. Et quoiqu'en ce moment j'aie à me plaindre de vous, mon cousin, je partage cette affection et je vous remercie de l'éprouver.
Je ne vous aime pas comme un frère, répondit Philippe en secouant la tête.
« Comment m'aimez-vous donc, mon Dieu ?»
balbutia la jeune fille.
« Je vous aime comme un amant. »
Et en même temps, pour accompagner ses paroles d'une pantomime appropriée à la circonstance et qui n'avait jamais manqué de le réussir, Philippe mit un genou en terre devant Blanche. De pâle qu'elle était, la jeune fille à l'instant même devint pourpre.
« Monsieur, mon cousin, » dit-elle avec hauteur, « ne savez-vous donc point que je suis la fiancée de votre frère aîné ?»«
Je le sais, au contraire, à merveille. »«
Vous le savez ?»«
Oui, ma cousine. » »«
Et le sachant, vous osez me parler ainsi que vous venez de le faire. »«
Raison de plus. » »«
Est-ce une insulte nouvelle ?»«
Ce n'est pas une insulte, ma cousine, c'est une vérité. »«
Albéric est indigne de vous. C'est un lourd gentilhomme, sans brillant, sans esprit. » Sans vivacité. Il ne peut vous apprendre ce que c'est que l'amour. Tandis que moi, je suis passé maître en cette douce science. Que peut vous offrir Albéric de plus que moi? Un titre et une fortune que je n'ai pas, c'est vrai. Eh bien, si vous tenez à ce titre et à cet argent, prenez-les, j'y consens de grand cœur. Qu'Albéric soit votre mari, pourvu que moi je sois votre amant. Voyons, belle cousine, y consentez-vous?
Blanche, indignée et épouvantée, poussa un cri et s'élança du côté de la porte. Philippe la retint sans peine.
« Où donc allez-vous, chère Blanche ? » lui demanda-t-il. « Vous le voyez, je fuis vos outrages. »«
Mes outrages ? Oh, ma cousine, quelle expression ! Traiter ainsi l'aveu sincère de l'amour le plus pur ? Mais vous n'y songez pas. C'est le bonheur que je vous offre, et je veux, s'il le faut, vous le faire accepter malgré vous. »
Tout en parlant ainsi, Philippe enlaça Blanche dans ses bras.
« Au secours !»
cria la jeune fille. Philippe se prit à ricaner.
« Au secours !»
répéta Blanche.
« Ma cousine, personne ne viendra. Mon père et mon frère sont absents, et mes mesures sont bien prises. Cessez donc une vaine résistance. Cessez des appels inutiles. Allons, ma charmante cousine. Un baiser ne ternira pas les roses de vos lèvres. Vous savez que je vous aime. »
« Faut-il vous le dire encore ? Faut-il vous le répéter à genoux ?» Et Philippe, resserrant son étreinte, s'efforça d'approcher son visage du visage de Blanche. Cette dernière, par un mouvement brusque et d'une incompréhensible énergie, échappa au bras vigoureux qui l'enlaçait et bondit en arrière.
Philippe fit un pas vers elle. « N'approchez pas !» s'écria Blanche, les yeux étincelants. « N'approchez pas !»«
Pourquoi donc ?» demanda Philippe. « Croyez-vous, belle cousine, que quand je veux cueillir une rose, j'ai peur de me piquer les doigts aux épines de la fleur ?»
Elle fit un nouveau pas en avant. Blanche se retourna. Au chevet de son lit, comme une relique sacrée, on voyait suspendue à la muraille l'épée de son père. Elle saisit cette arme. Elle rejeta loin d'elle l'inutile fourreau, et brandissant la lame étincelante, elle dit à Philippe, d'un ton où le mépris se montrait provoquant, « Approchez maintenant !» Philippe hésita. Il calcula les chances de la lutte et les trouva trop inégales. Blanche était une faible jeune fille, c'est vrai, mais elle était armée, et la braver en ce moment, irritée et menaçante, c'était courir à la mort. Philippe prit son parti.
« Belle cousine !» dit-il en souriant d'un sourire un peu contraint, il est vrai. « Ce n'est pas à la rose que j'aurais dû vous comparer tout à l'heure.
C'est à l'abeille.
Comme elle, vous avez pour défendre votre miel un aiguillon terrible. Je m'avoue vaincu et je me retire. Nous venons de commencer ensemble une partie dont vous avez la première manche. À bientôt, ma belle cousine. »
Et saluant avec une humilité ironique, Philippe ouvrit la porte et se retira. Blanche le laissa sortir. Puis, refermant la porte derrière lui et repoussant les verrous, elle laissa tomber son épée et tomba elle-même sur un siège, toute frissonnante encore du danger qu'elle avait couru. Quelques heures se passèrent ainsi. Blanche était brisée de corps et d'esprit. Elle n'avait plus ni force physique ni force morale. Elle ne remuait point, elle ne pensait pas. Lorsque le bruit des roues du carrosse sur les pavés de la cour lui annonça le retour de son oncle et de son fiancé, elle tressaillit et elle se leva brusquement. Une pensée terrible venait en effet de se présenter à elle. Quel parti prendre au sujet de ce qui avait eu lieu entre elle et Philippe? Devait-elle parler et demander justice d'un outrage aussi inouï qu'il méritait? Devait-elle au contraire ensevelir ce funeste secret dans les ténèbres les plus profondes? Si elle parlait, de combien de malheurs n'allait-elle point être cause? Elle apportait dans le sein de sa famille le trouble, la discorde, la haine. Un père maudissait son fils, un frère provoquait son frère. Qui sait si le sang ne coulerait pas dans une lutte fratricide? Une telle perspective épouvanta Blanche. Elle résolut de garder le silence et de ne point divulguer un seul des tristes événements de la journée. Elle se tint parole. Vainement, le vieux comte et Albéric, lorsqu'elle alla les rejoindre au salon, la questionnèrent au sujet de sa pâleur. Elle répondit qu'elle était un peu souffrante et que le lendemain, elle aurait repris son visage ordinaire. Ceci arriva en effet, et personne ne put concevoir le moindre soupçon. 3 jours se passèrent. Le soir du 3e jour, Blanche, en se mettant au lit, trouva sur son chevet une lettre qu'elle ouvrit en tremblant. Cette lettre était de Philippe. Le jeune homme suppliait sa cousine de lui pardonner sa conduite odieuse. Il la remerciait à 2 genoux du silence qu'elle avait gardé. Il ajoutait que sa vie entière serait consacrée à lui faire oublier un moment de folie, une action infâme, que le plus violent amour ne saurait justifier. Cette lettre soulagea d'un grand poids le cœur et l'esprit de Blanche. Elle avait la crainte instinctive de se voir en butte de nouveau à quelque infernale tentative de Philippe. Elle redoutait aussi un éclat entre les 2 frères, une scène violente et peut-être sanglante. La lettre de Philippe dissipait toutes ses appréhensions, anéantissait toutes ses terreurs. « Allons, » murmura Blanche, « il est meilleur que je ne le croyais. » Et elle s'endormit en remerciant Dieu. L'époque du mariage approchait. Blanche faisait une retraite pieuse de 8 jours et ne quittait son appartement que pour se rendre à la chapelle du château. Les journées et les heures semblaient interminables à l'amoureux Albéric, qui ne savait comment tuer le temps. Un soir, il annonça qu'il passerait à la chasse toute la journée du lendemain. Philippe, en même temps, témoigna l'intention d'aller à Saint-Germain faire quelques emplettes et donna l'ordre qu'on lui tînt un cheval sellé dès le matin. Le vieux comte lui demanda s'il ne se ferait point accompagner par un valet. Philippe répondit négativement. Le lendemain, en effet, dès le point du jour, Albéric, le fusil sur l'épaule et suivi de ses chiens,
quitta le château et se dirigea vers la forêt. Un instant après, Philippe se mit en selle et lança son cheval au galop sur le chemin de la ville. Les deux frères marchaient dans deux directions opposées et par conséquent se tournaient le dos. Plusieurs heures s'écoulèrent. Le ciel, assez pur pendant la matinée, était devenu d'un gris sombre. De grandes nuées rampaient lourdement sur la cime des arbres dépouillés de feuilles. Le vent sifflait à travers les branches avec un bruit sinistre. La neige ne tombait pas encore, mais elle était imminente. Albéric suivait lentement une large tranchée pratiquée au milieu d'une futaie d'ormes et de chênes centenaires. La voix de ses chiens, qui, dans le lointain, chassaient un lièvre ou un renard, arrivait jusqu'à lui par intervalles. Mais il n'écoutait pas ce murmure, si harmonieux, cependant, pour les oreilles d'un chasseur. Albéric pensait à sa Blanche bien-aimée, au jour du mariage, au bonheur si proche et si certain. Et il s'étonnait, au milieu de ses pensées joyeuses, de se sentir sur le cœur un poids de tristesse vague et sans cause. Tout à coup, une forme humaine se détacha du tronc d'un chêne et s'avança vers lui. Albéric leva les yeux et regarda celui qui venait ainsi à sa rencontre, en ce lieu solitaire. À son grand étonnement, il reconnut Philippe. « Comment, mon frère ? S'écria-t-il. « Te voilà ?» Et il tendit au jeune officier une main que celui-ci ne prit pas. Albéric n'attacha aucune importance dans le premier moment à ce refus de prendre sa main. « Je te croyais à Saint-Germain ? Poursuivit-il. « Tu te trompais, comme tu vois. « Mais par quel hasard ici ? Ce n'est pas un hasard. « Ah ? J'attendais quelqu'un. « Et qui donc ? « Toi. « Ah ? Répéta Albéric. « Tu as donc quelque chose à me dire ? « Oui. « Et quelque chose de mystérieux ? « Oui. « Albéric sourit. Il supposait que Philippe, dissipateur et prodigue comme il l'était, avait contracté à son régiment quelques dettes dont il n'osait point parler à son père, et qu'il venait s'adresser à lui pour le prier de lui ouvrir sa bourse à l'occasion de la solennité de son mariage. Et il se disait à lui-même que dans un moment où il serait parfaitement heureux, il voulait que tout le monde le fût autour de lui, et qu'il viendrait de tout cœur à l'aide de son frère. C'est dans cette disposition qu'il ajouta « Eh bien, voyons, parle, mon frère. J'attends cette communication pressante et mystérieuse. » « Écoute-moi donc, » dit Philippe, « et prends garde à ce que tu vas me répondre. » Le ton dont ces paroles furent prononcées étonna Albéric. Il regarda Philippe afin de lire sur son visage s'il parlait sérieusement. Le visage du jeune homme était sombre. Ses sourcils contractés donnaient à sa physionomie une expression farouche. Albéric se sentit troublé. Un secret instinct lui criait qu'il allait se passer quelque chose d'étrange et de terrible entre son frère et lui. Philippe reprit. « Tu ne seras point le mari de Blanche. »«
Je ne serai point le mari de Blanche ?» répéta Albéric stupéfait et ne pouvant croire à ce qu'il entendait.
« Non, » dit Philippe.
« Et qui l'empêchera ? Moi. »
« Et pourquoi l'empêcheras-tu ?
Parce que je ne veux pas que ce mariage s'accomplisse.
« Tu ne veux pas ? » s'écria Albéric.
« Je ne veux pas, » répéta Philippe.
« Et de quel droit, malheureux ?
J'aime ma cousine.
« Et moi, donc, crois-tu que je ne l'aime pas ? Et depuis plus longtemps ?
« Peut-être, mais elle ne t'aime pas.
« Qu'oses-tu dire ?
La vérité, Blanche ne t'aime pas, et elle en aime un autre.
« Mensonge, elle en aime un autre, » poursuivit Philippe. « Et cet autre, c'est moi. »
Albéric était livide, ses yeux s'injectèrent de sang.
« Elle te l'a dit ? » demanda-t-il d'une voix rauque et étranglée.
« Elle a fait mieux. »«
Comment ? » ?»«
Elle me l'a prouvé. »
Albéric s'élança sur son frère et le saisissant par les deux poignets, lui cria « Ainsi, tu prétends ?»
La force lui manqua pour achever sa phrase.
« Je prétends que Blanche est ma maîtresse, » dit Philippe avec le plus grand sang-froid.
« Misérable ! » hurla Albéric.
« Sais-tu bien que je vais te tuer ?
Essaye !
Ah, tu me défies !
Oui ! »
Philippe n'avait point achevé cette phrase que son frère aîné, aveuglé par la fureur, saisissait son fusil et en dirigeait vers lui le canon.
Chapitre 39 Caïn. Philippe, doué d'une force prodigieuse, lui arracha l'arme des mains, la tordit sur ses genoux, et la jetant loin de lui, dit en tirant son épée du fourreau. « Je ne suis ni un sanglier ni un loup, pour qu'on me tue à coups de fusil. Allons, monsieur mon frère, défends-toi, à moins cependant que tu ne renonces à épouser ma maîtresse. » Albéric n'avait pas d'épée, mais il portait un couteau de chasse à la lame épaisse et bien effilée. Il le saisit et de nouveau s'élança sur Philippe, qui dut rompre pour éviter d'être percé de part en part. Alors commença entre les deux frères un combat terrible et sacrilège, sans autre témoin qu'un corbeau immobile au sommet d'un vieux chêne, et qui, spectateur impassible de cette scène effrayante, mêlait de temps en temps son croassement lugubre au bruit sinistre du fer heurtant contre le fer. Au bout de quelques minutes, le couteau de chasse d'Albéric rencontra obliquement la lame d'épée de Philippe. L'épée se brisa sous ce choc, comme si elle eût été de verre. Il ne resta dans la main du jeune officier qu'un tronçon impuissant, tandis que son frère conservait intact son arme formidable. « Menteur infâme, tu vas mourir !» murmura Albéric en bondissant sur Philippe désarmé. Mais Philippe avait prévu ce mouvement. Il recula d'un pas, et saisissant à sa ceinture un des pistolets tout armés, il brûla à bout portant la cervelle à son frère. Albéric tomba la face contre terre. Il était mort, sans même avoir poussé un soupir. Philippe monta sur un chêne très élevé et regarda du côté de l'horizon. Aucun être animé ne se montrait dans les bois, aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Philippe redescendit. Il fit rentrer dans le fourreau la lame brisée et le tronçon de son épée. Ensuite, il prit le cadavre dans ses bras, et chargé de ce fardeau terrible, il s'engagea dans un étroit sentier. Le corbeau quitta la branche du chêne sur lequel il était perché et suivit le meurtrier en décrivant de larges spirales dans les airs. Philippe arriva auprès d'une cabane déserte, bâtie jadis par des bohémiens pour y passer l'hiver. La porte en était murée. Il ôta les unes après les autres les pierres qui fermaient l'entrée. Il plaça le cadavre dans l'intérieur, il le recouvrit de mousse et sortit. Puis il reconstruisit le mur qu'il avait démoli pour entrer. Le corbeau s'était posé sur le toit de la cabane et faisait retentir sa voix rauque et lugubre. Philippe ramassa des cailloux pour les lui jeter. Le corbeau secoua ses ailes et ne bougea pas. Philippe grimpa sur le toit. Le corbeau s'envola et s'arrêta sur un arbre à quelques pas de là. Philippe redescendit. L'oiseau funèbre revint prendre sa place aux fêtes de la masure, avec cette étrange persistance des oiseaux carnassiers qui sentent un cadavre. Alors Philippe eut peur. Ce corbeau devint pour lui la forme vivante des remords. « Il va me trahir, » pensa-t-il. Il prit à sa ceinture celui de ses pistolets qui restait chargé. Il mit le corbeau en joue et fit feu. Philippe était un tireur de première force. L'oiseau tomba. Philippe se sentit soulagé. Pendant un instant, il avait craint que toute arme terrestre ne fût impuissante contre le corbeau vengeur. Il dérangea de nouveau l'une des pierres accumulées contre la porte. Il jeta le corbeau dans l'intérieur de la masure. Puis, après avoir replacé la pierre, il alla reprendre son cheval, attaché dans un fourré à quelques centaines de pas de l'endroit où avait eu lieu le combat fratricide. Ceci fait, Philippe gagna rapidement Saint-Germain par des chemins de traverse et fit les emplettes dont il avait parlé la veille. À peine venait-il de se mettre en route pour revenir au château que le hasard sembla se déclarer pour lui. La neige se mit à tomber légèrement d'abord, puis à gros flocons, cachant ainsi sous une épaisse couche d'une blancheur immaculée les traces du duel, ou plutôt de l'assassinat, la terre fraîchement souillée et le sang répandu.